En attendant la rentrée, votre émission prend ses quartiers d'été et replonge dans ses archives.
Il est terrible le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Ce n'est pas sa tête pourtant qu'il regarde dans la vitrine de chez Potin. Il songe. Il imagine une autre tête. Une tête de veau, par exemple, avec une sauce de vinaigre, ou une tête de n'importe quoi qui se mange. Il remue doucement la mâchoire, et il compte sur ses doigts, 1, 2, 3. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé.
C'est avec un poème de Jacques Prévert de 1946, lu par Serge Reggiani, que nous entamons cette émission. Car aujourd'hui, près d'un Français sur trois peine à se nourrir. En un an, le prix du kilo de sucre a bondi de 55%, le riz de 20%, les céréales de 19%. Pour toute une partie de la population, il faut désormais se résoudre à rejoindre les files toujours plus longues de l'aide alimentaire. Les associations submergées par la demande poussent un cri d'alarme, tandis que les prix de nombreuses denrées refusent de baisser. En France, le retour de la faim, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous avons invité Dominique Paturel, chercheuse à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, et co-autrice de cet ouvrage, Le droit à l'alimentation durable en démocratie, aux éditions Champ Social. Également avec nous en duplex de France Bleu Hérault, Pauline Scherrer, sociologue coordinatrice au sein de l'association VRAC et Cocinas, co-directrice d'une expérimentation de caisse alimentaire commune à Montpellier. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Deveau, Anouk Milio, Laurence Genepin et Mathilde Blanchon. Bonjour Pauline Scherrer et Dominique Paturel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors après plusieurs reports, le gouvernement a présenté lundi son plan de lutte contre la pauvreté. Et après 9 mois d'attente, ce pacte de solidarité déçoit Dominique Paturel.
Alors que dire, que répondre à ça, c'est un peu compliqué dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, mais bien évidemment qu'il déçoit, il n'est pas du tout à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire. Et surtout, le problème, c'est qu'on reste dans la vision habituelle des politiques sociales telles qu'elles se sont mises en place depuis le milieu des années 80, donc pas de changement.
Pas de revalorisation des minima sociaux, notamment, c'est ce que demandaient les associations. Alors de son côté, Elisabeth Borne affirme que ce nouveau plan marque une augmentation de 50% des crédits dédiés à la lutte contre la pauvreté par rapport à la stratégie précédente. Pour vous non plus, Pauline Scherrer, le gouvernement n'a pas pris la mesure de la grande pauvreté dans notre pays ?
Oui, tout à fait. En tout cas, sur les questions qui nous occupent autour de la précarité alimentaire, on n'a aucune réponse structurelle qui est mise en avant et qui est avancée aujourd'hui. Donc on continue d'avancer un peu à l'aveugle, alors que, comme vous l'avez dit en introduction, les problématiques sont de plus en plus criantes.
Alors dans ce plan, il y a quand même la poursuite du déploiement des petits déjeuners à l'école, en particulier en Outre-mer, ou des cantines à 1 euro pour lutter contre la malnutrition infantile. Il y a aussi ce dispositif du repas à 1 euro au CROUS pour les étudiants ou étudiants boursiers qui devrait être élargi à tous les étudiants en difficulté qui le demandent. C'est ce qui a été annoncé. Tout de même, un vrai effort qui a été fait, Dominique Paturel.
Un vrai effort dans la continuité qui est celle de penser l'alimentation comme variable d'ajustement, en gros, de la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire qu'on va amener des éléments à travers des produits alimentaires comme façon, finalement, de régler un problème structurel, comme l'a dit Pauline. Et derrière cette analyse-là, on voit finalement une récurrence des politiques sociales menées depuis très très longtemps, qui consiste à vraiment considérer l'alimentation comme une variable d'ajustement.
Quels sont les éléments aujourd'hui dont on dispose, Pauline Scherrer, pour évaluer cet appauvrissement d'une partie de la population française sous l'effet de la flambée des prix à la consommation ?
Il y avait déjà eu une étude du CREDOC en 2022 sur les enjeux de précarité alimentaire qui ont montré une forte augmentation du nombre de Français qui déclarent ne pas toujours manger suffisamment, ne pas manger assez. Et c'est une très forte hausse qu'on a connue en 2022 et qui continue de se faire sentir. Donc après, sur le recours à l'aide alimentaire, l'INSEE avance des chiffres de l'ordre de 3,5-4 millions de recourants. mais on sait que cela masque finalement toute une partie de la population qui se trouve en situation de précarité alimentaire, mais qui ne recourt pas à cette aide alimentaire, à la fois pour des raisons de méconnaissance, mais aussi pour des raisons de sentiment de honte, en fait.
Oui, selon le Secours populaire, selon son baromètre annuel, près d'un Français sur trois, je le disais, peine à se procurer une alimentation saine qui leur permettrait de faire trois repas par jour. On peut dire que l'alimentation est plus que jamais un marqueur d'inégalité sociale, Dominique Paturel.
Oui, tout à fait. Et tous les travaux qu'on a pu faire dernièrement sur ces questions-là montrent que les inégalités sociales se sont accrues. Et alors, ces inégalités d'accès à une alimentation saine traversent l'ensemble de la société, mais évidemment, elles sont doublées, triplées par les questions de revenus. On sait bien que la cause essentielle de ces problèmes de précarité alimentaire, c'est des questions de revenus. C'est pas des questions qui ont à voir avec le fait que les gens sauraient pas comment faire pour se nourrir. On est bien sur des questions de revenus.
Quand on parle de précarité alimentaire, il faut évoquer la quantité, mais aussi la qualité de l'alimentation, Pauline Scherrer, puisque ça a un impact direct sur la santé, évidemment.
Oui, absolument. Quand on parle de qualité de l'alimentation, on est sur près de la moitié de la population qui n'accède pas à la qualité à la qualité qu'ils souhaitent. Donc on est vraiment sur une proportion très importante. Et je dirais que ces inégalités sociales, elles sont en train de se creuser, certes, avec les enjeux d'inflation et de manque de revenus, comme ça a été dit. Et je pense qu'à l'heure de où on a un autre sujet sur la table, qui est la transition alimentaire et écologique, et donc de plus en plus de discours qui montrent l'importance de pouvoir accéder à des produits frais, à des fruits et légumes, à des produits qualitatifs pour des questions de santé, mais aussi pour des questions d'environnement, ces inégalités se creusent d'autant plus.
Et c'est une question de santé qui est absolument primordiale, Dominique Paturel, puisqu'il y a vraiment une prévalence du surpoids et plus encore de l'obésité dans des populations plus précaires. Ça, il y a beaucoup d'études qui le montrent.
Oui, oui, il y a rien à dire à ça. C'est clair que c'est comme ça. Par contre, j'aurais tendance à dire attention quand on analyse ces questions-là, d'y rentrer par des indicateurs qui sont aussi forts que celui-ci. Parce que du coup, ça masque aussi fondamentalement la question de la structure des systèmes alimentaires dans lesquels on est pris, quoi.
C'est-à-dire ?
Vos deux émissions précédentes ont été très claires là-dessus. Elles ont bien montré la complexité des systèmes alimentaires, des rapports de force et surtout le fait que tout est orienté dans le soutien à l'offre alimentaire, pas à la demande.
Oui, il y a effectivement tout un système dans lequel cette demande alimentaire s'inscrit. Et aujourd'hui, ce que l'on observe du côté de la France, en tout cas c'est ce que dit l'INSEE, c'est qu'il y a désormais 9,2 millions de ménages dont les revenus sont situés sous le seuil de pauvreté. L'enjeu, Pauline Scherrer, c'est souvent le logement et l'énergie qui sont les premiers postes de dépenses. Et après, il ne reste presque plus rien pour l'alimentation.
Oui, voilà, on parle de dépenses contraintes ou de dépenses pré-engagées qui augmentent, le logement, l'énergie, les assurances, etc. Et du coup, l'alimentation devient, comme l'a dit Dominique, une variable d'ajustement, c'est-à-dire on fait comme on peut avec ce qui nous reste et avec ce qu'on nous propose. Donc, en l'occurrence, pour certains, ces aides alimentaires sous forme de colis ou d'épiceries solidaires. Mais du coup, il faut bien comprendre que cette précarité alimentaire, elle est imbriquée dans une précarité plus globale et que, malheureusement, là où on va essayer de faire comme on peut, c'est sur l'alimentation. Alors qu'on sait, par ailleurs, que l'alimentation, oui, elle touche à la santé, ça a été dit. On peut penser santé physique, mais on doit aussi parler de bien-être, de santé mentale, psychique. Ce que ça induit d'être en situation de précarité alimentaire, c'est beaucoup de stress, c'est de la culpabilité, voilà.
Oui, et physiologiquement, une alimentation saine est bien meilleure pour la santé psychique. Là encore, c'est un résultat scientifique.
Voilà, donc c'est bien comprendre les enjeux. Et puis, finalement, accepter que l'alimentation passe après tout le reste, c'est ne pas reconnaître finalement l'importance de cette alimentation pour aussi pour l'identité des gens, pour leur dignité, pour leur existence dans la société. Enfin voilà, c'est faire de l'alimentation quelque chose qui est vraiment annexe, alors que non, c'est fondamental en fait, c'est central.
Je crois que c'est sous les ponts. Oui, c'est comme ça. Parce que déjà un loyer, c'est déjà plus de 300 euros. Sur 600 euros, je fais quoi après ? on va crever de faim, hein. C'est comme ça. Hein. C'est dur, hein. C'est dur pour nous, c'est dur. C'est trop dur.
Surgelés. Heureusement qu'ils sont là, parce que s'ils sont pas là, on mangera peut-être pas tous les jours non plus, quoi.
Moi, ça fait que trois mois à peu près. C'est un ami qui m'a conseillé de voir une assistante sociale, qui m'a dit demande-lui des colis alimentaires. J'ai un véhicule quand même, et quand il faut que je passe à la pompe, je pleure. C'est plus gérable. C'est vraiment la misère de chez misère. Et ça fait que commencer.
Voilà des témoignages recueillis par France 5, France Culture et le Huffington Post. La précarité alimentaire progresse. Qui sont ces nouveaux bénéficiaires de l'aide alimentaire, Dominique Paturel?
Alors, si on attrape la question de l'accès à l'alimentation uniquement par le regard sur la façon dont la précarité alimentaire augmente et la façon dont augmentent les bénéficiaires, on décontextualise la question. Je me permets juste de rappeler que cette histoire d'accès à l'alimentation et de précarité alimentaire, elle prend sa place sous une vision des politiques sociales, je le répète, depuis le milieu des années 80. Par exemple, le soutien au logement par le biais d'allocations, même si aujourd'hui c'est un peu compliqué pour tout un tas de gens parce qu'il y a eu vraiment des choses qui ont été reniées. Et l'alimentation a toujours été considérée comme quelque chose qui n'avait pas besoin. Sur lequel on n'avait pas besoin d'intervenir de cette façon-là. Et d'ailleurs, ça correspond exactement au moment où la filière de l'aide alimentaire s'est organisée dans un pays comme la France et à l'échelle européenne. Donc on est vraiment aussi sur une vision qu'il faut regarder dans l'ampleur de ce que ça représente et pourquoi un pays comme la France ne donne comme seule et unique proposition l'accès à l'alimentation par l'aide alimentaire ou des réponses par un chèque alimentaire. Et donc on continue de cette façon-là à segmenter les questions de la précarité.
Oui, mais sur ces nouveaux profils, puisque ça nous dit quelque chose quand même, de savoir notamment qu'il y a davantage de retraités, davantage de travailleurs pauvres. Qu'est-ce que ça dit des évolutions que l'on connaît aujourd'hui, Pauline Scherrer?
Bah, ça parle de cette précarisation, effectivement, hein, des personnes, y compris des gens qui travaillent potentiellement. Ça parle que les minima sociaux ne sont pas suffisants et que, comme on disait tout à l'heure, hein, de toutes ces dépenses qui augmentent par ailleurs et qui font que finalement les gens finissent par aller à l'aide alimentaire pour compléter finalement pour remplir leur placard et leur frigo, quoi.
Dominique Paturel, sur ces travailleurs pauvres notamment, puisque on a entendu lundi la première ministre mettre en avant les vertus de la baisse du chômage. Il y a cette idée que le travail doit protéger les gens de la précarité alimentaire. On se rend bien compte que ce n'est pas le cas.
Non seulement c'est pas le cas, mais si on regarde un peu plus précisément qui sont ces travailleurs pauvres, on se rend compte qu'ils sont quand même la plupart du temps sur des activités qui permettent pas une rémunération correcte, sur du temps partiel. Il y a beaucoup de femmes qui sont sur des temps partiels, sur finalement des niveaux de revenus qui font que de toute façon ils peuvent plus être bénéficiaires d'un certain nombre de minima sociaux. Et donc on est vraiment sur une complexification de la vie au quotidien pour la plupart de ces familles.
Même si la cause principale du recours à l'aide alimentaire, je crois que ça reste la perte d'emploi.
Alors, ça reste, c'est la perte d'emploi et pas seulement, hein, c'est aussi une partie de la population qui est rentrée dans ce dispositif d'accès à l'alimentation et qui a énormément de mal à en sortir. Et qui a énormément de mal à en sortir pour cause de revenus, on est bien d'accord, mais aussi parce que cette aide alimentaire, qu'elle assigne une partie de la population à manger comme ça, et donc ça rentre aussi dans des habitudes pour accéder à une alimentation qui permette de garder un peu d'autonomie.
Et ces bénéficiaires de l'aide alimentaire sont surtout des personnes seules, mais il y a aussi beaucoup de familles monoparentales, Dominique Paturel.
Oui, exactement. C'est vraiment la population qui est la plus en difficulté par rapport à ça. Et puis on a eu quand même le premier confinement qui a mis en lumière cette question de difficulté d'accès à l'alimentation et qui a poussé aussi un certain nombre de populations vers ça. Et en particulier, c'est tout ce qu'on a entendu sur la population étudiante, par exemple.
Alors justement, oui, effectivement, cette question de la précarité alimentaire est revenue dans le débat public ces dernières années. On en parle de plus en plus, alors qu'elle avait peut-être été ignorée pendant un moment. Pauline Scherrer, comment est-ce que la prise de conscience s'est opérée? J'imagine que la pandémie a joué un rôle, en effet.
Oui, c'est vrai qu'on a une accumulation quelque part de crise, c'est-à-dire qu'on est en situation de crise permanente, puisque cette précarité, elle était préexistante. Effectivement, la crise Covid qui a entraîné une crise sociale aussi a mis ça en lumière. Il y a eu des nouveaux recourants, effectivement. Et puis derrière, l'inflation qui est un peu, entre guillemets, le coup de grâce, on va dire, sur ces questions-là. Donc je pense que c'est un peu ce cumul finalement d'événements qui font qu'aujourd'hui cette problématique remonte un peu, je dis bien un peu. Et puis c'est aussi ce croisement d'enjeux finalement entre des questions sociales et des questions écologiques et de santé. Mmh. Et donc ça en fait un sujet au croisement finalement de problématiques aussi accrues, aussi graves les unes que les autres. Et l'alimentation se retrouve à cet endroit-là. Et c'est bien pour ça qu'on essaye de mener des travaux, des expérimentations, des réflexions sur la manière de changer profondément de modèle et d'approche.
Des expérimentations sur lesquelles on va revenir tout à l'heure. Mais effectivement, il y a eu cette prise de conscience que l'aide alimentaire ne s'adressait pas qu'aux grands marginaux. Dominique Paturel, peut-être que vous pouvez nous rappeler quand et comment cette notion même de précarité alimentaire est apparue.
Alors, je dirais que le terme de précarité alimentaire, il s'institue dans les débats qui ont eu lieu, qui ont précédé la première loi Egalim, dans le cadre des États généraux de l'alimentation, puisque jusqu'à cette période-là, en gros, la France a adopté la définition internationale qui était plutôt la lutte contre l'insécurité alimentaire, et pas précarité alimentaire.
Alors, qu'est-ce que ça change ?
Ça change pas mal de choses. Enfin, ça change pas mal de choses. Ça peut paraître bizarre qu'un mot change de choses, mais le choix de précarité, il a été décidé par la Direction générale de la cohésion sociale de reprendre ce terme-là. Donc, y compris à partir des travaux qu'on a pu développer. Hein. C'est aussi des questions qu'on a amenées dans les débats. Et tout simplement parce que le terme de précarité, c'est le terme qui modèle les politiques sociales depuis la mise en place du revenu minimum d'insertion.
Voilà. Et la notion de précarité,
et la notion de précarité, elle est utilisée parce qu'elle met en avant le fait que la question de la pauvreté est aussi liée à la disqualification, Pauline en parlait tout à l'heure, mais aussi finalement à des ruptures en termes de liens sociaux. Et il y a cette espèce de présupposé qui est que si l'alimentation, et aujourd'hui on peut, il suffit d'écouter aussi ce que disent les opérateurs de l'aide alimentaire, ils justifient une grande partie de leurs interventions par le fait que cette distribution d'aide alimentaire permettrait de garder et de construire du lien social. Voilà. Et donc on est vraiment sur une façon de faire tourner en boucle des questions qu'on va justifier au nom du lien social, qu'on va justifier au nom de la cohésion sociale, sur quelque chose qui a un besoin de la vie ordinaire et qui nécessiterait finalement d'être traité d'un point de vue complètement différent.
En tout cas, aujourd'hui, les associations d'aide alimentaire tirent la sonnette d'alarme.
Pour des millions de Français, c'est difficile de se nourrir. On parle de privation. Et les Restos du Cœur alertent et ont alerté effectivement. Notre cri d'alarme, c'est le reflet de ce que vit le pays aujourd'hui. Parce que nous allons devoir refuser du monde des personnes qui auraient dû avoir besoin de nous, à qui nous aurions dû dire oui, très clairement, parce que nous ne pouvons pas aller au-delà des 170 millions de repas que nous avons distribués cette année. Sinon, demain, c'est 200 millions, 250 millions. Rien ne peut nous dire aujourd'hui ce que sera l'hiver prochain.
Nous avons dépensé 372 000 euros de plus en denrées que l'année précédente. Ça représente à peu près 27 à 30% en plus. C'est dû à l'arrivée de 20% en plus de personnes accueillies. C'est dû au prix des denrées. Je veux dire, c'est énorme. C'est vraiment la mort dans l'âme qu'on va être obligé de limiter le nombre de personnes accueillies. Alors maintenant, si les dons affluent, peut-être qu'on va réguler. Juste au niveau de mon département, la première semaine d'appel, on a eu 3 à 5 000 euros de dons. On voit arriver des dons de 10 euros. Ces donateurs-là sont aussi respectables que M. Arnaud et que tous les gros dons.
En France, le retour de la faim, c'est notre sujet aujourd'hui sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de Pauline Scherrer et de Dominique Paturel. On vient d'entendre d'abord le président des Restos du Cœur, Patrice Douré, dans l'émission C'est à vous sur France 5, et Antoine Gérassi, le président des Restos du Cœur de la Loire, au micro de France Culture. Aujourd'hui, les associations sont submergées par cette demande qui ne cesse de grandir, Dominique Paturel.
Oui, c'est évident, c'est clair. Hein. Et on voit bien que ça, là-dessus, il y a pour eux en face quand même des grandes difficultés à répondre, que ce soit par la nature de leurs ressources, mais que ce soit tout simplement par le modèle économique qui est en place derrière. Donc oui, bien sûr que pour eux, c'est arrivé à une situation assez compliquée. En même temps, je veux dire, ça ne fait que renforcer le constat qu'on a fait en 2021 dans un rapport où on montre bien, en gros, les limites de cette filière d'aide alimentaire et surtout le fait qu'elle n'a pas réussi à vaincre, entre guillemets, l'insécurité alimentaire.
Oui, les chiffres sont assez parlants. Les banques alimentaires accueillaient 820 000 personnes en 2011. L'an dernier, c'était 2,4 millions. Donc, c'est trois fois plus de personnes en 10 ans. Pauline Scherrer, il y a eu vraiment un essor absolument considérable, sachant qu'aujourd'hui, les associations sont étranglées entre la hausse de la demande d'une part et puis la hausse des prix alimentaires.
Et oui, donc je pense que on touche à une limite d'un dispositif qui a été créé au départ pour répondre à des urgences, c'est-à-dire des situations temporaires. Et comme on l'a dit au début, on a des personnes qui ne peuvent plus ressortir de ces dispositifs et faire autrement. Et effectivement, un accroissement permanent du nombre de recourants à cette aide alimentaire avec des limites au système. Ces limites au système, elles sont dans le fait de pouvoir répondre aux besoins, dans le fait qu'on n'arrive pas à lutter contre cette précarité alimentaire avec de l'aide alimentaire. Donc il y a un problème sur les résultats, sur les effets. Et puis peut-être on abordera aussi la question de l'imbrication de cette aide alimentaire dans le système alimentaire industriel, qui aujourd'hui montre aussi tous ses effets pervers en termes d'impact environnemental. Et puis un système économique derrière l'aide alimentaire à travers les fonds européens, à travers la défiscalisation des entreprises.
Oui, on va en parler. Voilà. C'est un sujet essentiel parce qu'effectivement, aujourd'hui, certains parlent carrément d'un marché de la faim. Mais d'abord, peut-être, comment est-ce que cette explosion de la demande se traduit concrètement sur le terrain, Dominique Paturel ? Qu'est-ce qu'elle change, par exemple, au rapport entre bénévoles et bénéficiaires ?
Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Moi, je pense que la situation actuelle, elle est de toute façon difficile pour les bénévoles des associations d'aide alimentaire, qui se retrouvent avec un afflux. Et donc, je suppose des conditions pour eux d'organisation des distributions qui doit pas s'arranger vraiment. C'était déjà compliqué avant, parce qu'il faut voir quand même ce qu'on leur demande de faire, la logistique à prendre en charge, la bureaucratie quand même de cette filière qui pèse sur ces bénévoles.
Vous parliez de lien social tout à l'heure, j'imagine que dans ce contexte c'est compliqué de créer du lien social.
Et donc du coup ça devient certainement beaucoup plus compliqué, et de toute façon fondamentalement cette distribution de l'aide alimentaire, elle s'installe sur un rapport de domination entre quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit, et qui, de toute façon, est quelque chose de très difficile à vivre.
Voilà. Pauline Scherrer, peut-être, sur ce qui se passe sur le terrain ?
Oui, effectivement, les retours aussi qu'on peut avoir dans les distributions. Alors, il faut bien se dire que là, on parle d'une multitude d'associations, d'antennes locales, de groupes de bénévoles qui s'investissent, qui s'engagent de manière différente en fonction des endroits. Donc voilà, faut vraiment faire la différence entre le système dans sa globalité et ce qui peut se vivre dans certaines antennes ici et là, qui sont quand même, il y en a énormément en France. Mais ce qu'on entend, ce qu'on peut percevoir, c'est aussi un questionnement du côté des bénévoles sur ce travail finalement que représente aujourd'hui l'aide alimentaire, un travail gratuit, donc fourni bénévolement, souvent par des retraités, et qui devient de plus en plus lourd logistiquement, en termes de cadence. Donc il y a une vraie interrogation là-dessus, et puis une autre interrogation aussi sur les denrées distribuées, sur les produits dont ils peuvent disposer à l'aide alimentaire. Et je pense que c'est pour ça qu'on a un questionnement collectif à avoir, du côté des associations d'aide alimentaire, et du côté de la recherche, et du côté des acteurs qui essayent de faire autrement, puisque les limites, elles se sentent aussi à ce niveau-là.
Oui, ce sont beaucoup de produits ultra transformés, et puis ce sont beaucoup les mêmes produits, donc il y a une monotonie qui peut être assez difficile. Absolument. À vivre pour les bénéficiaires.
Il y a eu quand même une transformation depuis le premier confinement qui a été mis en place avec ce comité interministériel qui s'appelle le COCOLUPA, qui a beaucoup travaillé sur le fait d'essayer de diversifier les produits, et qui donc d'ailleurs a habilité un certain nombre d'associations à participer à l'aide alimentaire. Bon, bien sûr, il y a le réseau Cocagne, hein, qui est là depuis très longtemps et qui est un des acteurs qui produit des fruits et des légumes. Il y a un acteur beaucoup plus ancien qui sont la Fédération des paniers de la mer, hein, qui récupère du poisson et qui le revend à l'aide alimentaire. Et il y a VRAC. Qui est arrivé aussi comme nouvel opérateur de l'aide alimentaire et qui propose des produits secs, mais des produits de qualité différente. Mmh. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce travail qui est fait. Alors, il ne faut pas croire que, parce que je dis ça, je trouve que c'est une bonne chose, cette filière. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une filière économique. Ce n'est pas juste un dispositif qui serait avec des résidences charitables. Et donc, cette filière, elle a des phases de modernisation. Et nous sommes actuellement dans une phase de modernisation du type de produits distribués. Et c'est le sens du travail qui a été fourni par ce comité interministériel.
Il y a les difficultés que traversent les bénévoles et puis bien sûr plus encore la souffrance des bénéficiaires qu'il faut évoquer, un sentiment de déclassement qui est très fort, c'est ce qu'on observe chez les bénéficiaires, Pauline Scherrer.
Oui, je crois que le recours à l'aide alimentaire marque très fortement ce signal de déclassement pour les personnes. Elles en témoignent, même si par ailleurs, derrière, elles peuvent effectivement créer des liens, hein, dans ces lieux, des liens de solidarité, des rencontres, etc. Mais oui, c'est un signal fort pour elles. Et ça, on le retrouve dans la plupart des entretiens qu'on peut mener avec des recourants à l'aide alimentaire.
Dominique Paturel.
Oui, c'est sûr. Et puis en même temps, qu'est-ce que ça veut dire pour ces personnes, hein, finalement, quand elles se retrouvent dans un pays où l'activité autour de l'alimentation est quand même sacrément importante. Et finalement, c'est la seule proposition qu'on leur fait. Hein. Et qu'est-ce que ça veut dire de ce pays qui, par exemple, trouve normal de proposer à sa jeunesse étudiante soit l'accès par l'aide alimentaire, soit des repas à 1 euro. Et qu'est-ce que ça veut dire un repas à 1 euro aujourd'hui pour un Crous qui doit faire aussi comme tout le monde, quoi. C'est-à-dire faire avec l'inflation, les prix, etc. quoi. Donc c'est quand même un truc qui n'est pas forcément parlé de façon très forte, mais ça dit bien de la place qu'on a dans cette société.
On va continuer à parler de cette explosion de la demande de l'aide alimentaire et de ce qu'elle dit de notre société, de notre économie, avec vous Dominique Paturel et Pauline Scherrer, juste après ça.
La faim, quand ça me prenait, maintenant ça va, dis-moi, je le crois. La faim, ça me connaissait, car elle et moi, c'était comme ça. La faim, faut y penser de temps en temps, ça fait les dents comme chez les bêtes féroces. Ça coupe la noce, ça fait penser, moi j'ai dîné pas mal, et toi les autres, je m'en fous. Et grand berger, quel est ce chien qui me tend les mains et ses yeux doux? La faim, il y en a pour qui ça va toujours, c'est comme l'amour. La faim, il y en a pour qui ça va jamais, toujours complet. La faim, il y en a pour qui les vieux croutons, c'est encore bon comme la romaine. Ça gonfle, ça coupe la semaine. Dans l'estomac, ça nage un peu, ça fait ce qu'on peut, ça bouche les trous. Et dans le taffetas, ça serre un peu un cran, mon vieux, faut joindre les bouts. La faim, quand par hasard, y'en a pour deux, ça fait causer. La faim, pour les bavards, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça distrait. La faim, jamais en retard, cette souris-là n'attend même pas que tu la sonnes. Elle trône. Super. Elle a son chic, les yeux cernés du fil de soie dans les tibias. Même en musique, elle fait jeûner cette cigale-là depuis des mois. La faim, y en a qui disent qu'elle est fauchée, mais c'est pas vrai. La faim, ça a toujours deux, trois petits tours dans son panier. La faim, quand t'as trimé des tas d'années dans sa carré, donne un pourboire. Une poire. Pour la soif.
C'est C'était Léo Ferret sur France Culture. D'entendez-vous l'écho en France. Le retour de la faim, c'est notre sujet aujourd'hui. La sociologue Pauline Scherrer et la chercheuse à l'INRAE, Dominique Paturel, sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde par Marie-Claire Roumabadi. Alors, on l'a dit, au départ, l'aide alimentaire a été conçue comme un dispositif d'urgence. Mais ce que l'on observe aujourd'hui, c'est qu'elle est devenue structurelle dans notre société. Vous diriez, Dominique Paturel, on a commencé à en parler tout à l'heure, que le tournant s'est opéré dans les années 80 avec la création de la première banque alimentaire française ?
Oui, tout à fait. Oui, c'est exactement, c'est vraiment le point de départ de l'institution de cette aide alimentaire, en particulier reprise par, je dirais, les pouvoirs publics dans un partenariat avec des associations privées.
Donc c'est le contexte de la crise pétrolière, l'explosion des prix de l'énergie. Comment ça se passe ? Plusieurs associations caritatives se réunissent et créent ce modèle des food sur le, créent sur le modèle des food banks américaines cette première banque alimentaire française. Comment ça s'est passé, Dominique Paturel ?
Oui, tout à fait. C'est exactement ça, avec le fait de se rendre compte qu'il y a besoin dans cette période-là. De construire quelque chose qui permette à une partie de la population d'accéder à l'alimentation. Et c'est basé très clairement sur le fait de récupérer les surplus agricoles et agroalimentaires, parce qu'à ce moment-là, il y en a encore à l'échelle européenne. Voilà, donc c'est là-dessus que se construit le modèle des banques alimentaires.
Pauline Scherrer, sur le commencement, les débuts de la banque alimentaire.
Oui, bah c'est vrai que ça marque un tournant, parce qu'historiquement, on était plutôt sur des associations religieuses, enfin, initialement d'ailleurs sur des restaurants publics, des associations religieuses, puis l'arrivée du Secours Populaire, donc plutôt issu du Parti Communiste. Donc on était sur cette notion toujours de charité, quand même, des élites envers les populations défavorisées, mais avec derrière un projet, soit religieux, soit politique. Et là, c'est vrai que les banques alimentaires, on construit quelque chose de l'ordre d'un partenariat fort avec l'industrie alimentaire, avec la grande distribution et avec ce besoin de découler des surplus alimentaires. Et donc, c'est vrai que là, on rentre, à mon avis, dans une... Enfin, c'est pas mon avis d'ailleurs à moi, mais on rentre dans une autre phase, comme vous avez dit, d'institutionnalisation et de pérennisation, finalement, de ce dispositif d'aide alimentaire qui est pensé de plus en plus comme une aide, comme une aide parmi les autres.
Et c'est dans ce contexte qu'arrive Coluche.
Pour l'instant, on a une capacité probable de 5 millions de repas pendant l'hiver. Si on arrive à en faire 10 millions, 20 millions, tant mieux. Si on arrive à en faire 5 millions, tant mieux.
Coluche, vous avez rencontré, je sais, un certain nombre de personnalités politiques. Est-ce que vous êtes aussi aidé par les pouvoirs publics ?
Oui, bien sûr. Ah bah oui, on a le ministère des Transports qui nous transporte tout gratuit. On a le ministère de l'Agriculture qui nous a ouvert toutes les portes des offices Fival et Oniflore qui nous permettent d'accéder à la viande et aux céréales au prix les plus bas.
Coluche, il y a beaucoup d'associations qui font déjà ce genre de travail.
Oui.
Comment vous ont-ils accueilli ? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de leur faire un peu de l'ombre ?
Ah non, on leur fait du soleil, au contraire. Alors là, vous êtes tombé pile à côté, parce que on leur fait exactement le contraire. D'ailleurs, ils ont tous signé avec nous, à part un ou deux, sur les 18 associations principales caritatives qui exercent en France. Je crois qu'il fallait relancer l'idée de générosité, parce que aujourd'hui, il n'y a plus que des clochards à nourrir. Il y a des chômeurs, c'est des gens qui ont une famille, qui ont un foyer. On a vu ici des gens qui viennent chercher 5-6 repas pour aller faire manger leurs enfants et leur famille chez eux. C'est à ces gens-là qu'on s'adresse.
Et voilà, Coluche en duplex sur antenne de le soir du lancement officiel des Restos du Cœur. C'était le 21 décembre 1985. En quoi les Restos du Cœur vont-ils faire évoluer le système de l'aide alimentaire, Dominique Paturel ?
Oui, c'est vrai que c'est c'est une des premières ruptures. Pauline disait, historiquement, on est plutôt du côté des associations religieuses. Là, on a très clairement une association... créé par un personnage médiatique, quand même, il faut bien le rappeler, et c'est extrêmement important pour la suite, qui va ramener cette question-là de façon laïque et dans l'espace public. Mmh. Voilà, donc c'est effectivement une rupture.
Et puis il y a cette adoption du modèle de la centrale d'achat qui permet d'avoir un poids dans la négociation des prix.
Ça. Voilà, exactement, parce que les banques alimentaires, c'est un dispositif de logistique. Hein, c'est des produits qui rentrent et des produits qui sortent et qui sont donnés à des associations qui vont distribuer. Les Restos du Cœur, c'est à son propre modèle qui est fondé effectivement sur, sur une grosse centrale à partir desquelles ils négocient les prix. Ils ont en interne des gens qui travaillent sur les négociations entre guillemets commerciales dont ils ont besoin.
Et aujourd'hui, le système de l'aide alimentaire profite aux grandes surfaces, Pauline Gérard, qui peuvent se débarrasser de leur surplus en bénéficiant d'une ristourne fiscale ?
Bah, c'est le modèle initial, hein, donc la défiscalisation des dons faits aux associations. Après, les choses évoluent, puisqu'avec la loi Garot, notamment la loi anti-gaspi, entre guillemets.
En 2016.
Voilà, on voit les pratiques évoluer aussi, dans les grandes surfaces notamment, avec de plus en plus de produits qui sont proposés à date courte, avec des prix cassés. Donc finalement, les associations ont plutôt observé une baisse, une diminution de ces dons alimentaires issus de la grande distribution.
Oui, il y a eu aussi des dérives. Je crois que certaines grandes surfaces, ça c'est ce que dit Guillaume Garot, qui est à l'origine de la loi qui porte son nom dans le média en ligne Reporter, il dit que certaines grandes surfaces ont tendance à considérer les associations comme des centres de prix, en allant parfois jusqu'à arrêter de donner une fois le plafond de défiscalisation atteint.
Voilà, et puis ce dont témoignent les associations, c'est aussi des produits qui sont de plus en plus en mauvais état en fait, hein, donc on est vraiment sur le bout de la chaîne, et il arrive très régulièrement aux associations d'être finalement ceux qui jettent.
Exactement.
Donc vous imaginez en termes de reconnaissance, de prise en compte, etc. On atteint vraiment une limite assez grave. Hein. On en vient à être ceux qui jettent ce dont vraiment personne n'a voulu. Et on peut même pas le distribuer. Donc pour les gens qui ont recours à cette aide, pour les bénévoles qui s'engagent, on est vraiment sur la limite d'un système.
Il faudrait instaurer, peut-être, pardon de vous couper, davantage de contrôle, en particulier sur les dons, Dominique Paturel.
Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut poser la question. Surtout, c'est de regarder de plus précisément aujourd'hui. Je parle de l'activité, hein, je ne parle pas le fait de conserver cette filière. Hein, mais sur l'activité, cette activité, elle est hyper contrôlée. Hein. Elle est hyper contrôlée dans un cadre qui est législatif, qui permet des choses, qui interdise des choses.
La qualité des dons alimentaires est très contrôlée.
Alors non, elle n'est pas contrôlée. Elle n'est pas contrôlée en tant que telle, puisque finalement, en gros, ils sont dépositaires de ce qu'on veut bien leur donner. Hein, donc ça, c'est clair. Mais quand même, ce qu'il faut entendre aussi, c'est que le travail de tri et le travail de gestion des déchets, finalement, il est reporté sur les bénévoles de ces filières.
Les associations qui bénéficient aussi du Fonds européen d'aide aux plus démunis, qui permet aux États membres comme la France de se fournir à bas coût sur le marché européen et puis de redistribuer ensuite la nourriture aux associations. Est-ce que c'est devenu un véritable marché, Pauline Scherrer ?
Ben oui, on peut le dire, hein, une filière, comme Dominique le disait, puisqu'il y a des achats qui sont faits, il y a des négociations qui sont faites, il y a des intérêts pour certains et moins pour d'autres. Donc oui, on est bien sur un fonctionnement de marché. Il faut savoir que, par conséquent, les associations d'aide alimentaire achètent de plus en plus de produits. Et au final, on a des personnes qui recourent à l'aide alimentaire et qui ne peuvent pas choisir leur alimentation. Donc c'est là où il faut qu'on s'interroge sur cette organisation, finalement, puisque les achats se font à une échelle plus haute pour finalement, au bout, avoir une alimentation sous contrainte, souvent inadéquate. On a des phénomènes de revente de produits, on a des phénomènes de produits qui sont distribués puis jetés. Alors, je dis pas que c'est la majorité des produits, mais tout ça existe. Donc, cette idée que les gens ne peuvent pas choisir finalement ce qu'ils mangent nous pose réellement problème dans la mesure où l'alimentation fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, partie intrinsèque de notre identité, de ce qu'on est, de notre culture, de notre histoire familiale, de notre rapport à notre corps, de tout un tas de toute une série de choses qui sont absolument pas anecdotiques.
Et dans ce marché de la faim, comme on peut l'appeler, il y a eu de véritables arnaques. Je pense au scandale des faux steaks achetés via ce fonds européen d'aide aux plus démunis qui avait été redistribué aux associations d'aide alimentaire en 2019. C'est une exception, ça arrive régulièrement, difficile de le savoir, j'imagine,
oui,
Dominique Paturel.
C'est difficile de répondre à une question comme ça, parce que derrière, ça voudrait dire aussi douter, je dirais, de la moralité des bénévoles. Mais là, vous êtes en train de me faire faire un truc qui m'est jamais arrivé. C'est-à-dire que je suis en train de défendre les bénévoles de la filière de l'aide alimentaire, alors que je pense que c'est une filière.
Non, en l'occurrence, là, les bénévoles ont reçu ces fausses têtes cachées. Ils n'étaient pas en cause.
Oui, bien sûr. Non, mais je pense sincèrement que ces fraudes, elles existent, bien sûr. Mais elles existent aussi parce que le modèle est basé sur de la récup. Et que du coup, ça ne laisse pas des masses de marge de manœuvre. Et il faut savoir que si ça n'avait pas été distribué à l'aide alimentaire, de toute façon, on l'aurait trouvé de toute façon chez un certain nombre de distributeurs.
Cette question de l'aide alimentaire s'inscrit dans une réflexion plus globale, hein, on l'a dit, sur le système alimentaire mondial. Tim Lang, qui est professeur de politique alimentaire à l'Université de Londres, est l'un des premiers à avoir dénoncé l'impact de la libéralisation des échanges sur la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'il a dit, Tim Lang, Dominique Paturel?
Il part d'un constat qui est celui de se dire, aujourd'hui on est dans une situation, donc ça on est en 1998, hein, donc c'est juste après le sommet mondial de l'alimentation, où il y avait déjà eu une première expression forte qui était devenue via Campesina, donc avec cette idée de souveraineté alimentaire. Lui, il pose des questions un petit peu différemment. Il dit, dans les pays du Nord en particulier, alors pas que du Nord, mais en particulier dans les pays du Nord, finalement, les États ont même plus le pouvoir législatif d'intervenir sur le marché de l'alimentation. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à une situation où le rapport de force, il se situe à des niveaux qui ne sont plus accessibles. Alors évidemment, à nous, c'est clair, mais également aux États.
À cause de la puissance de l'industrie agroalimentaire.
À cause de la puissance de l'industrie agroalimentaire, mais aussi parce que finalement, l'orientation de la législation, qu'elle soit à l'échelle des pays ou à l'échelle européenne aussi pour nous, elle est d'abord là et avant tout pour encadrer et sécuriser le droit de l'alimentation.
Et voilà. C'est comme ça qu'il fait émerger cette notion de démocratie alimentaire. Comment elle s'incarne, cette démocratie alimentaire, Pauline Scherrer?
On va dire qu'elle s'incarne dans de nombreuses initiatives locales, alors en France et ailleurs, hein, autour de cette idée que des citoyens, des citoyennes se réapproprient, s'approprient ce sujet de l'alimentation et se disent qu'ils peuvent avoir un pouvoir et qu'ils sont peut-être pas obligés de subir justement un système alimentaire finalement qui nous est largement imposé. Et donc qui vont s'organiser pour monter un groupement d'achat, une AMAP, un jardin partagé, un supermarché coopératif. Voilà, toutes ces initiatives qu'on a vues éclore, émerger hein, depuis maintenant pas mal d'années.
Mais qui, problème de taille, peinent à toucher les populations les moins favorisées.
Absolument, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt inscrits dans des réseaux, dans des groupes sociaux, on va dire, de classe moyenne supérieure, éduqués avec des études supérieures. Et puis qui peinaient justement complètement, qui passaient à côté, hein, qui passent toujours d'ailleurs hein, peut-être, hein, à côté des populations les plus précaires. Et depuis quelques années, on a quand même vu aussi cette question de la justice sociale s'imposer un peu dans ces réseaux-là, en tout cas être mis en question. Voilà. Est-ce que si on fait une transition alimentaire avec seulement la moitié de la population, est-ce que c'est vraiment une transition alimentaire? Non. D'où cet enjeu d'ouvrir, d'élargir d'embrasser réellement cette idée de démocratie alimentaire qui inclut complètement cette question de la justice sociale. Et quand on parle de justice sociale, on parle de redistribution, donc il y a une dimension matérielle, économique, financière, mais on parle aussi de ces fameuses reconnaissances des personnes qui sont sur le bord de la route, qui sont des minorités, qui n'ont pas une place pleine et entière dans la société et qui finalement ont aussi souffrent d'inégalités sociales, économiques, mais aussi d'inégalités sur le plan politique, puisque on les appelle souvent les invisibles ou les inaudibles.
Et il y a aussi une autre proposition sur la table qui est la sécurité sociale de l'alimentation à l'image de ce qui a été mis en place en France en 1945.
Français, vous voterez bientôt, comme vous y convie Monsieur Larocque, directeur de la sécurité sociale.
Le 24 avril prochain, il va être procédé par toute la France à des élections générales en vue de pourvoir à la désignation des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale et d'allocation familiale. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Elles sont des instruments de solidarité. Comme telles, elles doivent être gérées par les intéressés eux-mêmes ou par les représentants élus
qui pourront, mieux que quiconque, orienter l'emploi des fonds et le fonctionnement même des services dans le sens des désirs des travailleurs.
Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho? C'était une archive de l'INA du 27 mars 1947 dans laquelle on entendait Pierre Larocque, le directeur de la Sécurité sociale, nouvellement créée. À quoi ressemblerait une Sécurité sociale de l'alimentation, Dominique Paturel?
Justement, on se base sur le régime général de la Sécurité sociale. Le régime général de la Sécurité sociale tel qu'on vient de l'entendre là, hein, c'est le résultat d'une longue histoire. C'est pas quelque chose qui surgit comme ça. Donc c'est la façon dont des mutuelles se sont mises en place, des mutuelles publiques, des mutuelles privées, les rapports de force entre ces mutuelles, les groupes de corporations qui se réunissent, etc., etc. Voilà. Donc on a une longue histoire derrière et à un moment donné cette idée de régime général qui va englober l'ensemble de ces différents courants pour proposer à l'ensemble de la population un accès aux soins. Ben voilà, c'est ce modèle-là sur lequel on s'appuie pour faire cette proposition de sécurité sociale de l'alimentation, en sachant que donc on s'appuie sur trois piliers, pour dire les choses un peu rapidement. D'une part, la reconnaissance d'un droit à l'alimentation, alors que nous, on qualifie de durable, pour faire la rupture avec le droit à l'alimentation tel qu'il est proposé aujourd'hui. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est l'idée du conventionnement des acteurs des systèmes alimentaires, comme on fait pour la Sécu. C'est-à-dire comment on conventionne des producteurs, des agriculteurs, des artisans, et puis des distributeurs et des lieux de consommation. Hein, donc voilà, donc ça c'est
le deuxième pilier,
c'est assez fondamental. Ce système financé par la cotisation sociale, donc un pourcentage pris sur la valeur ajoutée produite par le travail à l'échelle des entreprises, de toutes les entreprises, et cette proposition de redistribution par le biais d'une allocation qui est pour l'instant évaluée à 150 euros et autour de laquelle on a à la fois une discussion assez importante de l'avoir comme une allocation universelle et puis aujourd'hui un certain nombre d'entre nous questionnent aussi peut-être une variation dans la distribution de cette allocation en fonction des revenus des familles.
Et donc l'objectif c'est d'assurer une alimentation saine à tous et également d'inciter à des comportements alimentaires plus durables de la part des consommateurs, Pauline Scherrer?
Alors, grande question. Je crois que ce qui est au cœur de la proposition et qui est intéressant, c'est cette idée que l'alimentation, c'est un sujet de démocratie. Il faut que ce soit un sujet de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse débattre, échanger. Il faut qu'on puisse apprendre, prendre conscience des enjeux, nous, les citoyens et citoyennes, collectivement, pour faire des choix et pour décider. Et effectivement, on fait plutôt l'hypothèse que si on fait cet exercice démocratique, on va plutôt aller vers une alimentation plus saine, plus durable, plus protectrice de l'environnement, des paysans, de leur métier, etc. Donc c'est bien ça hein, qui est au cœur, je pense, de cette idée-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on essaye d'avoir, comme on dit, cette approche systémique de la question alimentaire. C'est-à-dire, on n'est pas juste en train de regarder la précarité alimentaire des mangeurs et des mangeuses. On est aussi en train de regarder la précarité tout au long, finalement, de la chaîne, de ce système alimentaire, et notamment la situation des agriculteurs. Et l'hypothèse, c'est de dire, on va faire évoluer l'ensemble, finalement, du système, et tout le monde va y gagner.
Mais alors, ce seraient les entreprises et les salariés qui cotiseraient, Dominique Paturel. Sauf que si on est tous soumis au risque de la maladie, on ne l'est pas au risque de la faim. Est-ce que ça n'est pas compliqué dans ce contexte de créer de la solidarité?
Alors, je pense qu'il ne faut pas poser la question comme ça, hein, parce que le rôle de l'alimentation, et vous, dans vos questions, vous nous le demandez depuis le début. Derrière, il y a aussi la question de la santé. Alors de la santé des hommes et des femmes et des enfants, mais la santé aussi des systèmes alimentaires. Donc c'est derrière, c'est aussi l'enjeu de la transition écologique hein, qui est en place. C'est pas juste de répondre par des produits alimentaires qui seraient meilleurs, etc. C'est comment on améliore les systèmes alimentaires de façon générique et pas juste à le voir sur un point de vue nutritionnel ou d'un point de vue des pratiques des agriculteurs.
Mais est-ce que ça ne va pas être difficile de convaincre? C'est ce que je veux
non,
dire.
Non, mais je suis bien d'accord avec vous. Sauf que ce qu'on est en train de vous expliquer là, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a entendu de vos deux émissions précédentes. C'est-à-dire qu'on aborde la question du côté de la demande. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme possibilité face à l'offre alimentaire et telle qu'elle est posée? C'est pas vous ni moi avec mes petits bras qui va pouvoir y faire quelque chose. Donc la proposition qu'on a, c'est d'être en capacité de mettre en place ces propositions démocratiques pour pouvoir repartir de ce qu'on a besoin, de ce qu'on veut et de ce qu'on est capable, sur lequel on est capable de reprendre la main.
Regardons comment ça pourrait se passer concrètement. Ça tombe bien. Vous avez expérimenté un système comme celui-ci, hein, une sorte de sécurité sociale de l'alimentation avec cette caisse alimentaire commune à Montpellier, Pauline Scherer, cette année. Expliquez-nous comment ça marche.
Oui, alors c'est une, comme vous l'avez dit, une expérimentation à petite échelle. On n'est pas sur un système de sécurité sociale avec la cotisation, hein, que ça engage, mais on a voulu expérimenter cette idée de démocratie alimentaire. Et qui dit démocratie dit pouvoir de décision pour des citoyens et des citoyennes. Donc aujourd'hui, on a créé un comité citoyen à Montpellier de l'alimentation qui regroupe 50 habitants, dont la moitié sont des personnes qui vivent ces situations de précarité alimentaire, qui sont concernées directement. Ce comité citoyen gère une caisse, c'est-à-dire un budget. Donc parce que quand on parle de pouvoir, c'est bien qu'il y ait des questions aussi d'argent, hein. C'est bien qu'on puisse décider de où va l'argent. Et donc cette caisse, ce budget, il est alimenté à la fois par des cotisations, on va dire des participations financières des personnes, avec un système de je cotise en fonction de mes moyens, mais chacun reçoit la même somme par mois. Nous, on est sur la somme de 100 €. C'est ce qu'on a pu faire avec nos capacités ici. Et puis, ce budget est complété par des fonds publics et par des fonds privés dans le cadre de l'expérimentation.
Oui, c'est ça. Il y a des subventions de la ville et de la
Absolument.
Métropole de Montpellier, ainsi que
de la région
privée Carasso. Voilà.
Voilà. Et la Fondation de France. Donc, ils gèrent ce budget. Comment ils le gèrent? À travers ils ont un peu de mandat pour deux grandes fonctions. La première, c'est de décider de comment on fait vivre économiquement la caisse. Donc, qui doit cotiser combien, en fonction de quels critères. Et puis, la deuxième, c'est ce fameux conventionnement. On est un peu au cœur de l'idée de SSA, Sécurité sociale de l'alimentation, puisqu'ils se réunissent régulièrement et ils explorent leur territoire et ils se questionnent avec des intervenants extérieurs, mais aussi à partir de leur propre expérience de vie, sur qu'est-ce qui fait qualité. C'est quoi une alimentation de qualité? Pour vous, pour moi, pour nous. Et l'idée, c'est d'avancer comme ça collectivement sur des critères de qualité de l'alimentation qui permettent derrière de conventionner des boutiques, des magasins, des producteurs en direct et en l'occurrence pour nous également deux marchés de plein vent. Donc là actuellement, on a 400 personnes qui participent à cette expérimentation, qui testent donc ce système. On a créé pour l'occasion une monnaie alimentaire, la Mona, qui est une application numérique, hein, qui permet de faire ses achats dans les lieux conventionnés. Et on a une dizaine de magasins, une trentaine de producteurs en direct. Et on continue, puisque c'est une expérimentation qui est en cours et qui montrera ses enseignements et ses résultats l'année prochaine.
Oui, c'est un petit peu tôt pour vous demander cela, mais est-ce qu'il y a déjà certaines leçons qui peuvent être tirées à l'heure actuelle, Pauline Scherer?
Alors, c'est un peu tôt. ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commencé à mener certains entretiens avec des participants ou avec des points de vente. Et en termes juste de sécurité, de sentiment de sécurité, hein, le fait d'avoir un budget garanti pour les prochains mois, je pense pour toute une partie des participants, c'est quelque chose qui leur amène un souffle. Enfin, voilà, le témoignage, c'est que ça amène un souffle, une respiration, des produits qui ont du goût, le sentiment d'exister, d'être connu, de faire partie de quelque chose. Donc oui, on commence à avoir des retours de ce type. Après, le dispositif en lui-même, on n'a pas encore inventé le modèle pérenne sur le plan économique. On a plein de choses à regarder, puisque dans les hypothèses des effets d'un dispositif comme la caisse alimentaire, on doit aussi regarder ce que ça peut faire sur l'offre et derrière sur les filières, sur les producteurs. Donc c'est un travail de longue haleine. Mais on espère qu'il va nous permettre de nourrir déjà ce projet de sécurité sociale de l'alimentation. Et puis, pourquoi pas, d'imaginer quelque chose aussi à l'échelle du territoire qui puisse progressivement faire progresser ce droit à l'alimentation et une meilleure égalité d'accès à l'alimentation, à cette alimentation plus durable.
Quel est votre regard, Dominique Paturel, sur ces expérimentations locales? Elles permettent de voir comment il serait éventuellement possible de généraliser ce système?
Oui, ces expériences telles que Pauline vient de la décrire sont des expériences intéressantes dans leur forme d'innovation. Ça fait 25 ans, hein, donc on a un quart de siècle de recul sur les initiatives qui ont cherché à reconnecter, en gros, ce qu'on mange, qu'on a dans notre assiette, avec les conditions de production et de transformation. Donc 25 ans, c'est intéressant pour regarder un peu comment ça va. Ce qu'on a vu pendant ces 25 ans, c'est à chaque fois un élargissement, je dirais, transversal des initiatives. Pas vraiment de possibilité de monter en généricité, parce que, et ce que je vous disais tout à l'heure, on est quand même sur une structure de marché qui n'a pas du tout intérêt à ce que ces initiatives aussi deviennent quelque chose de plus politique, finalement. Hein. C'est pour ça que le concept de démocratie alimentaire est extrêmement important. Là, ce qui se passe avec la SSA, disons depuis 25 ans, on voit arriver avec la SSA la construction d'un récit politique, d'un narratif à travers des expérimentations qui ne vont pas forcément proposer énormément de choses différentes d'un certain nombre d'initiatives qu'on connaît par cœur, qui ont quand même beaucoup accéléré le processus depuis en gros 2010. Hein. Et ce récit narratif, ce qu'il amène, d'abord, un, c'est le fait de vraiment installer la question de l'accès à l'alimentation et de l'alimentation dans l'espace public, donc comme problème politique. Et la deuxième chose qui est extrêmement intéressante, c'est de regarder qui sont les gens qui portent ce récit et l'espoir que ça ouvre. Et on voit en particulier énormément de jeunes, énormément de femmes et une partie des personnes plus âgées qui font partie de ces réseaux militants.
Ça ouvre des espoirs et c'est important dans cette période très difficile qu'on traverse avec des prix toujours très élevés. Peut-être un mot de conclusion, Pauline Scherrer, sur le grand défi que représente aujourd'hui la lutte contre la précarité alimentaire en France. On a bien compris que c'était un défi plus important encore aujourd'hui.
Oui, ben, j'avais envie un peu dans la continuité de Dominique, de témoigner aussi autour de la sécurité sociale, de l'alimentation. Le type de retour qu'on a, c'est ça fait du bien de lutter pour quelque chose et pas de lutter contre quelque chose comme on le fait depuis toujours. Donc c'est vrai que cette proposition là, elle est porteuse d'espoir, elle est porteuse d'une autre manière d'envisager aussi la place des uns et des autres dans la société. Et c'est vrai qu'à travers cette question alimentaire, on a un vrai levier pour faire démocratie aussi localement, et ça c'est ce qu'on peut percevoir dans nos travaux ici, dans notre expérimentation. Ça rassemble, ça fédère, ça fait envie. Il faut vraiment pas s'empêcher, on va dire, d'essayer d'initier des choses, même si on sait qu'il y a plafond de verre, même si on sait qu'il y a de l'impuissance à plein de niveaux. Mais en fait, ça fabrique quand même de la puissance d'agir, d'expérimenter des choses collectivement, et ça répond aussi à des besoins ici et maintenant, et ça c'est important.
Et c'est en tout cas très stimulant de vous entendre l'une et l'autre. Un grand merci, Dominique Paturel et Pauline Scherrer, d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Dominique Paturel, chercheuse à l'INRAE, je rappelle le titre de votre ouvrage, Le droit à l'alimentation durable en démocratie. C'était aux éditions Champ Social, et Pauline Scherrer, sociologue, coordinatrice au sein de l'association VRAC et COSINAS. Un grand merci à toutes les deux. Un grand merci également à Mathis Ollier, technicien à France Bleu Hérault, qui a assuré ce duplex.
J'en veux pas tellement, plus je grandis, plus je me rends compte que je suis l'inconnu dans l'équation. J'entends les craquements et les fissures de ton ego dans mon verre, mes glaçons. Bientôt j'appellerai mon père et je lui dirai que je l'aime sans qu'il se pose de questions. Je viens prendre le beurre, l'épinard, la crémière, la douleur et les félicitations. Sortez la bière, les pleurer, les mouchoirs, touchez du bois avant la crémation. J'écris avant la perte de mémoire, mais mets le trou noir avant ma création. Avant tu rêves d'avoir des rêves, maintenant j'ai plus la sensation. Qu'en fait tu rêves d'avoir les rênes de ta vie dans ton champ d'action. Des pensées humides sous mes paupières sèches, j'ai jeté l'urine et l'argent par les fenêtres. Le verre est vide, mais le whisky était sec. Si tu m'élimines, tu te préserves de l'échec. Ne pas s'en aller, ne pas s'en aller. Compter ton estime, la perdre, y voir un signe à terme. Ne pas s'en aller, ne pas s'en faire. Si tu pouvais revivre la veille, tu serais déjà signataire. Mais t'as pas le choix d'y aller. T'as pas le choix d'y aller. T'as pas le choix d'y aller. T'as pas le choix d'y aller.
ça fera des nœuds dans le vent.
C'est la fin d'Entendez-vous l'écho. On se quitte avec Pas le choix, le nouveau titre du groupe Glauque. Demain, grand entretien exceptionnel avec les deux auteurs de cet ouvrage très ambitieux qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, une histoire du conflit politique. Thomas Piketty et Juliette Cagé seront les invités d'Entendez-vous l'écho demain à 14h. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.
Et quand j'ouvrirai le bâton, j'aurai vu sur ce que t'as bâti. J'ai toujours été impatient, t'as donc fini par en pâtir. Des pensées humides, sous mes paupières sèches, j'ai jeté l'urine. Et l'argent par les fenêtres, le verre est vide. Mais le whisky était sec, si je t'élimine.